Mireille Bocassa est à la présentation.
La CPI s'acharne sur Thomas Lubanga et laisse tranquille les gros poissons responsables des viols massifs, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et anthropophagie. C'est ce qu'a dit le président de la Fédération internationale des droits de l'homme après sa visite en RDC. Une accusation rejetée par la CPI qui dit continuer ses enquêtes qui ont pour point de départ l'Ituri et Thomas Lubanga. Au Nord Kivu, certains anciens miliciens démobilisés sont en colère. Ils ne retrouvent pas leur nom sur la liste de paye de primes. Ils mettent en cause la société CELPAY qui, elle, les appelle à l'apaisement et à la patience, le temps d'harmoniser les listes. En province orientale, la zone de santé d'Issangui connaît depuis quelques mois la fréquence des décès de femmes pendant l'accouchement. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Issangui, ces cas sont dus à l'arrivée tardive de ces femmes à l'hôpital. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. La Cour pénale internationale se laisse instrumentaliser en épargnant de gros poissons et en restreignant ses accusations contre Thomas Lubanga. Ce sont là les propos du président de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, après une mission en République démocratique du Congo. Selon M. Sidiki Kaba, les responsables des viols collectifs, des exécutions sommaires, des assassinats ciblés et même des actes d'anthropophagie doivent répondre de leurs crimes. Suivant.
L'impunité est l'une des sources principales de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la CPI ne doit pas être utilisée à des fins d'instrumentalisation de la justice pour éviter qu'il y ait une justice à deux vitesses. On ne peut pas s'arrêter à la seule responsabilité de Thomas Lubanga qui nous paraît être le manufacteur. Des investigations doivent être amplement faites de manière à éviter que seul le manufacteur soit amené à rendre compte devant la justice.
Comment pensez-vous que la CPI pourrait agir plus efficacement devant ces dossiers?
Il ne faudrait pas qu'il y ait le soupçon d'une volonté de faire échapper quelques-uns à cette justice, mais elle ne doit pas être partielle et partiale parce qu'elle va davantage développer le sentiment de frustration qui sont à l'origine des actions extrajudiciaires et des actions de vengeance individuelle, lesquelles mettent en péril la paix civile et la paix sociale.
En réaction à cette déclaration, la Cour pénale internationale dit ne pas être instrumentalisée. Pour Pascal Turlan, la CPI continue ses enquêtes qui ont pour point de départ l'Ituri et Thomas Lubanga. Mais la CPI poursuivra toute autre personne qui aurait commis de crimes de guerre et sur qui elle réunira toutes les informations et preuves nécessaires pour une enquête. Pascal Turlan, chargé de la coopération au bureau du procureur de la CPI, est joint par Jean-Blaise Tamboué.
Nous poursuivons aujourd'hui Thomas Lubanga Dilo pour les crimes de guerre, d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans. Il s'agit pour nous du premier cas présenté devant la Cour qui se fonde sur les informations et les preuves qui nous a été possible de rassembler. L'objectif du bureau du procureur est d'enquêter et de poursuivre ceux, tels qu'ils soient, qui portent la responsabilité la plus importante dans la commission des crimes de notre compétence, de manière totalement indépendante de toute considération autre que celle de l'information et du niveau de preuve disponible. Nous avons commencé l'enquête par l'Ituri, après le 1er juillet 2002, mais sans nous limiter à l'Ituri si nous sommes en mesure de prouver la commission de crimes de notre compétence dans d'autres endroits du pays. L'objectif du bureau du procureur reste de protéger les populations civiles et de mettre fin à l'impunité par la poursuite des auteurs des crimes les plus graves.
Monsieur Ferland, mais selon la Fédération internationale des droits de l'homme, où il y a encore d'autres criminels qui se baladent et ils ne sont même pas préoccupés par la Cour pénale internationale.
Alors, je n'ai pas de commentaire à faire sur les accusations qui sont portées par la FIDH contre des individus. La Cour continue ses enquêtes, comme je l'ai indiqué, de façon tout à fait indépendante, quelles que soient ces personnes et leur statut, mais je laisse la FIDH libre de ses déclarations.
La mission de la force de l'Union européenne a une durée de 4 mois. Elle s'achève donc le 30 novembre, un mois après les élections. Elle ne devrait pas être prolongée. L'information a été rendue publique hier par le ministre allemand de la Défense en tournée en Afrique. Franz Josef Jung s'est dit confiant que la situation après le deuxième tour de l'élection présidentielle restera relativement tranquille, ce qui permettra aux soldats européens de rentrer dans leur pays avant Noël. Notre consoeur Babel Pongo a eu confirmation de cette information sur le non-renouvellement du mandat de Lefort auprès de Bernard Prévost, ambassadeur de France en RDC. On l'écoute.
Lefort est en place pour un mois après les élections. On peut penser que le dépouillement sera plus rapide que pour le premier tour, puisqu'il n'y a plus que deux candidats au lieu des 33 du premier tour. Et puis, bien évidemment, si la nécessité se faisait sentir, la question de la prolongation des forces extérieures pourrait se poser, mais elle n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Il n'y aura pas prolongation.
Je ne suis pas devin. En théorie, c'est possible, mais je voudrais préciser que la question du déploiement d'une force européenne, EUFOR en l'occurrence, relève du Conseil de sécurité. Et ça ne serait que si le Conseil de sécurité demandait le maintien de cette force que la question serait posée et qu'une réponse devrait y être apportée. La question ne se pose pas actuellement.
Rappelons que les camps du président congolais Joseph Kabila et du vice-président Jean-Pierre Bemba, qui s'opposeront au second tour, ont signé samedi dernier un acte d'engagement pour faire de Kinshasa une ville sans armes. Signalons en outre que Bernard Prévost, ambassadeur de France en RDC, sera l'invité du jour de Radio Kapi. Vous pouvez donc le suivre à 8h30 sur la fréquence de la paix. Et puis ce nouvel appel à l'apaisement du président du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans une déclaration publiée vendredi dernier, le président du Conseil appelle au cantonnement des forces de sécurité de deux candidats au second tour, ainsi que des soldats des FRDC dans la ville de Kinshasa. Jean-Toby Okala, porte-parole de la MONUC, donne les détails de la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est au micro de Willy Akonda.
Le Conseil de sécurité a d'abord engagé tous les partis politiques, et en particulier le président Kabila et le vice-président Bemba, à réaffirmer leur engagement en faveur du processus de paix et à œuvrer dans le cadre qu'ils sont convenus d'établir avec la facilitation de la MONUC pour parvenir à un règlement pacifique des différents politiques. Pour ce qui est des médias, le Conseil de sécurité a engagé instamment tous les candidats et toutes les parties en RDC à bannir tout message susceptible d'inciter à la haine et à la violence et à se plier au code de conduite que ces institutions ont respectivement établis en vue de la tenue d'élections libres, justes et transparentes dans un climat pacifique. Enfin, le Conseil de sécurité a souligné qu'à l'issue des élections, tous les partis politiques devront se comporter de manière responsable dans le cadre d'institutions démocratiques.
Le paiement des filets de sécurité pour les démobilisés réinsérés de la CONADER par la société CELPAY pose problème au Nord Kivu, alors qu'on n'en est encore qu'au deuxième jour de l'opération de paiement d'allocations mensuelles pour les mois d'août et de septembre 2006. Près de 200 démobilisés qui recevaient pourtant leur argent de manière régulière par la CONADER ne retrouvent pas leur nom sur les listes de paye. Ils mettent en cause la société CELPAY, mais celle-ci appelle au calme et promet de trouver une solution dans un bref délai. Bernadine Diam.
Selon les démobilisés qui viennent des différents territoires du Nord Kivu, il y a plusieurs irrégularités dans la paye des filets de sécurité, paye confiée pour la première fois au Nord Kivu à CELPAY. Des dizaines, voire des centaines de noms sont omis et tout le monde n'a pas son dû.
Nous avons vu un grand regret. Maintenant pour aujourd'hui, les CELPAY qui ont venu, maintenant il y a tant de désordres. Mon nom, ce n'est pas se trouver dans la liste. J'ai déjà été payé 4 mois au Canada. Maintenant, j'ai resté d'être payé 5 mois.
Du côté de CELPAY, les responsables disent se référer à la liste transmise par la CONADER Kinshasa. Mais ceux dont les noms ont été omis peuvent espérer être payés ultérieurement. Jean-Luc Dokaya, chef de mission CELPAY.
Pour les démobilisés qui viendraient en retard, ou alors pour ceux qui ont des cas problématiques, les listes ne viennent toujours pas. Compte tenu du fait que nous arrêterons la paye le mardi, les retardataires, ceux qui n'auront pas eu la possibilité de venir beaucoup plus tôt, mon agent continuera à les payer pour autant qu'ils soient en conformité et en régularité.
Même réaction pour la CONADER Nord Kivu qui estime qu'après vérification, une nouvelle liste sera transmise à Kinshasa pour régulariser la situation avant la fin de l'opération de paye en cours. Signalons que plus de 10 000 démobilisés sont concernés par l'opération de paye pour le mois d'août et septembre 2006 au Nord Kivu. L'opération de paye devra s'étendre progressivement partout dans la province dès ce jeudi. Goma, Bernadine Diambou pour Radio Kapi.
De l'autre côté, au sud Kivu, l'administrateur du territoire d'Idjui s'indigne de la confusion qui règne au sein des FRDC basés dans son secteur. Selon César Toumba, Idjui Sud est sécurisé par des militaires issus de la 10e région militaire et qui dépendent du commandement de Bukavu. En revanche, Idjui Nord est sécurisé par leurs collègues venus du Nord Kivu qui reçoivent des ordres de la 8e région militaire de Goma. On écoute à ce sujet César Toumba, administrateur d'Idjui au micro de Didas Namujimbo.
Ce n'est pas normal hein, que dans un même territoire, nous trouvons moins de régions militaires. J'ai de difficultés pour gérer les deux régions. Parce que maintenant, j'ai une région qui gère le sud et une région qui gère le nord. Alors, il y a trop de désordres. Et j'ai demandé au niveau de la province que nous puissions rester avec une seule région militaire à Ijoui, que nous restons avec Bukavu, parce que c'est là où nous faisons les rapports. Nous avons fait la suggestion et une recommandation. Je crois que dans les jours à venir, ça va passer.
Direction province orientale, la zone de santé d'Isangui connaît depuis quelques mois la fréquence des décès de femmes pendant l'accouchement. Durant les trois derniers mois, 4 cas ont été enregistrés. Le dernier en date est survenu le week-end dernier. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Isangui, ces femmes enceintes sont surtout affectées de ruptures utérines au moment de leur arrivée tardive à l'hôpital. Docteur Jean-Robert Chimanga, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Isangui, accuse les centres de santé d'être à la base de ces décès. Il le dit au micro de Anselme Massois.
Dans les centres de santé, on a effectué des manœuvres qui ne sont pas normaux pour amener à la femme à l'accoucher et pourtant la présentation de l'enfant était une présentation difficile qui nécessitait nécessairement une césarienne. Lors de l'accouchement, les matrones sont en train de pousser l'utérus, des fois ils montent même au-dessus de la femme pour qu'elle puisse accoucher. Donc ce qui entraîne les ruptures utérines qui sont responsables d'hémorragies internes graves, on constate que c'est un cas qui nécessite une intervention chirurgicale. On garde la femme pendant 2-3 jours et quand ils arrivent ici dans notre hôpital, c'est déjà la femme vient dans un état très très critique. Vraiment, ça occasionne les décès. Nous remarquons que c'est quand le cœur ne supporte plus la quantité de sang qui est dans l'organisme, c'est alors qu'il transfère.
Quittons la province orientale pour le Kasaï occidental et parlons du service minimum instauré depuis hier lundi par les agents cadres de la SNCC à Ilebo. L'objectif de ce service est de permettre aux opérateurs économiques de prendre possession de leurs marchandises. La Fédération des entreprises du Congo Kasaï occidental se réjouit de cette mesure. Elle demande par ailleurs aux autorités compétentes de trouver une issue à la grève qui perdure depuis plusieurs mois. Willy Kalombo.
C'est le culte œcuménique organisé le week-end dernier dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo qui a jeté le premier jalon ouvrant la voie à une décrispation de la situation. Autorités politico-administratives, opérateurs économiques et délégués syndicaux ont tous pris part à ce rendez-vous. Selon l'administrateur du territoire, plusieurs manifestations ont été organisées par des grévistes afin d'empêcher toute reprise des opérations ferroviaires. Seule une prière œcuménique semble être parvenue à chasser les esprits négatifs. C'est à l'issue de ce culte que les installations ont été remises en marche. Joint au téléphone, André Kabasele Mujmo Abiuma, président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, salue l'instauration du service minimum. Ce responsable estime que cela permettra l'évacuation de plusieurs tonnes de marchandises longtemps bloquées dans des wagons immobilisés. Il insiste toutefois sur la nécessité pour le gouvernement de trouver une solution aux revendications des cheminots. Pour le délégué syndical de la SNCC, le service minimum ne concerne que les cadres de son ressort. Il annonce par ailleurs que la grève devra se poursuivre jusqu'à l'apurement des arriérés de salaire. Kananga, Willy Kalombo, Radio Okapi.
Quatre pêcheurs de Tianfumu dans le territoire de Mwanda, province du Bas-Congo, ont été arrêtés depuis jeudi dernier par les gardes des côtes angolaises. Cette information a été livrée hier lundi à Radio Kapi. D'après Koalo Sele, administrateur du territoire de Mwanda dans le Bas-Congo, il leur est reproché d'avoir pêché dans les eaux territoriales angolaises. Les démarches sont en cours avec les autorités angolaises pour obtenir leur libération. Je vous propose donc de suivre ce reportage de Dani Kindanzita, rendu par Jacques Matonde.
D'après Philippe Kobe, conseiller de l'Union des pêcheurs de Tianfumu, UPN en sigle, ces hommes sont allés pêcher sans savoir les limites des eaux territoriales angolaises et congolaises. Ces derniers affirment qu'il est difficile à un pêcheur de connaître exactement les frontières qui délimitent les eaux. À lui d'ajouter qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les pêcheurs angolais qui viennent souvent pêcher à Tianfumu sans problème. Contacté à ce sujet, Koalo Sele, l'administrateur du territoire de Mwanda, a déclaré qu'après avoir été saisi de la situation, il a délégué une personne à Cabinda avec une lettre officielle pour que ces quatre pêcheurs soient relâchés. Selon lui, jusqu'à l'heure actuelle, la personne n'est pas encore de retour. En attendant, le propriétaire de l'embarcation confisquée s'est rendu le vendredi dernier à Cabinda pour négocier avec les autorités angolaises la libération de ses employés.
7h14 dans le studio Jérôme Gongo à Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net.